Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec aujourd'hui Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Bonjour. Hassen Amou, bonjour, responsable associatif, fondateur du collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir. Et Thomas Elexhauser, bonjour, délégué bonjour, national Valérie. Les centristes bonjour. Et conseiller départemental de l'Eure. Et Gilles Gansman qui restait avec nous, comme tous les jours, pour le zapping de la présidentielle.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Alors un zapping pour éclairer vos débats, Valérie, hein, parce que j'aurais pu faire toute l'émission.
Oui, on aurait pu faire toute l'heure avec toutes les déclarations, les sons politiques.
Donc j'ai essayé de choisir, ne m'en voulez pas, c'est juste pour alimenter un peu les débats. On va commencer par dimanche, Yannick Jadot qui était sur Radio J et interrogé sur Éric Zemmour. Il a affirmé que Éric Zemmour réussissait à faire et à accepter l'antisémitisme, là où Jean-Marie Le Pen a échoué des propos chocs.
La devise de la République, ça peut pas être racisme, antisémitisme, révisionnisme. Zemmour porte des pulsions de mort, je porte des pulsions de vie. Zemmour, au fond, essaye de réconcilier une partie de la France avec l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme. Et au fond, ce que le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, il arrive à le faire.
Ce que le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, ne voulait pas faire.
Ah, je pense que quand tu parles du détail de l'histoire, il assume son antisémitisme, il assume, au fond, la collaboration et beaucoup de choses.
Et Zemmour, c'est pareil ?
Ben, Zemmour porte la même chose, sauf qu'il a une différence avec Le Pen. C'est que Zemmour est juif.
Et alors ?
C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Et ça...
C'est grave ce que vous dites là.
Bien sûr, mais c'est extrêmement grave ce que porte Éric Zemmour dans la société.
Bon, cette expression de juif de service, peut-être, qui veut réagir, Hassen Amou, comme on a traité d'arabe de service, c'est la même rhétorique.
Moi je pense que depuis 24 heures, c'est un secret pour personne, je suis soutien de Yannick Jadot. Et j'estime que les mots qu'il a employés sont des mots en réalité qui ont plusieurs significations. La première, c'est, lui il le dit, c'est la traîtrise à sa communauté d'origine. C'est dans ce sens-là qu'il a prononcé ce mot. En l'occurrence, ça n'est pas en faisant je ne sais quel dérapage verbal de campagne pour faire un espèce de coup de claquette sur l'antisémitisme. Jamais Jadot n'a été pris, en tout cas, sur des propos pareils. En revanche, il est vrai...
Pourquoi Zemmour a été anti-juif ?
Zemmour a réhabilité les thèses de Pétain. Il a réhabilité un certain nombre de thèses dont une grande majorité des historiens disent l'inverse. Et donc, effectivement, Yannick Jadot a mis le doigt là-dessus en expliquant que, à un moment donné, réécrire l'histoire à sa manière, c'était une traîtrise à ses origines et qu'il faisait honte donc à ses origines. Mais en l'occurrence, voilà, c'est un mot de campagne. Je pense que Zemmour emploie un vocabulaire beaucoup plus violent au quotidien et que on n'est pas assez souvent à s'indigner de ce qu'il peut dire dans la presse ici.
Enfin, le terme d'arabe de service est connoté, donc juif de service, ça renvoie quand même à ça.
Mais en fait, la vérité, c'est qu'on fait un parallèle depuis 24 heures entre arabe de service et juif de service. Ouais. Il est vrai que quand on dit arabe de service, ça a une connotation différente, parce qu'effectivement, c'est souvent employé par des gens qui mènent des combats contre la République pour dénoncer ceux qui sont investis, que ce soit en politique, dans la vie associative, au quotidien, au service de la France, des Français, ou qui font état d'un amour particulier pour les valeurs de notre... Bon, c'est ça qui est la connotation d'arabe de service qui est insupportable employée par les uns et les autres. Je pense que le parallèle n'est pas à faire entre les propos d'Yannick Jadot hier et ce fameux mot de arabe de service.
Ouais. Ce qu'a voulu dire Yannick Jadot, je pense, c'est de se dire qu'il y a une espèce de seuil de tolérance à l'égard de ce que peut dire M. Zemmour, qui, je pense, semble insupportable, en tout cas pour M. Jadot. C'est comme ça que je le prends. Et de dire qu'aujourd'hui, le camp Le Pen n'exploite plus certaines expressions ou ne dit pas des choses que dit aujourd'hui Zemmour. Et je pense que ce qu'a voulu dire M. Jadot, c'était de dire, de par l'obédience ou la croyance ou la communauté d'origine de M. Zemmour, on ne lui reproche pas ce qu'il dit sur certaines minorités françaises, de par son obédience. C'est comme ça que je l'interprète. Et cela, bien sûr, remet en exergue le fait que certains propos de M. Zemmour sont très compliqués. C'est vrai que quand il évoque le fait de sortir de la France plusieurs millions de personnes, c'est à se demander comment est-ce qu'il va le faire. Mais tout ça est dans un contexte général d'une campagne qui patine,
très basse
et qui est aussi liée à l'absence de déclaration du président et à l'absence de véritable débat. Et donc, pour moi, je dirais même que la campagne, elle pourrit. Et M. Macron laisse un peu la campagne pourrir.
Alors, on continue.
Elle est belle, ma réduction d'impôts. Qui veut mon augmentation ? Les camelots de la politique ont sorti des promesses lors de leur meeting, mais alors pas forcément avec le même talent. Un exemple avec Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, c'était sur les salaires.
Je veux que le travail paye, qu'il paye plus que l'assistanat et surtout qu'il soit payé à son juste prix. Je m'y engage. Avec moi, les salaires des Français augmenteront de 10% sur le quinquennat.
Si vous voulez, hein, dans deux mois, le SMIC, il est à 1 400 € par mois. Si vous voulez pas, votez Macron. Si vous voulez, l'été prochain, ceux qui ont 59 ans et 360 jours, la retraite.
Il est frais, voilà. Mon poisson, il voilà. Est frais. Chacun qui veut mon poisson
ouais. Et...
c'est la pub, Valérie. Je vais vous faire un dernier son tout à l'heure après la pub où on verra que Valérie Pécresse a peut-être franchi le Rubicon.
Eh bien, on y revient dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Évidemment, on va revenir sur le meeting de Valérie Pécresse. Qu'en avez-vous pensé ? On va parler d'Éric Zemmour qui engrange de nouveaux ralliements. Et on va parler également du convoi de la liberté de ce week-end. Bref, beaucoup de sujets avec vous, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mais Gilles, il vous restait un son dans votre zapping.
Et le son, il va résumer deux de vos débats. Vous allez voir, le Rubicon a-t-il été franchi par Valérie Pécresse en utilisant l'expression « le grand en remplacement. En tout cas, ça a fait un heureux Éric Zemmour hier soir, qui était sur TF1 face à Anne-Claire. Éric, Anne-Claire Coudray.
Pour que la France reste la France, je suis lancé dans cette campagne.
Ça et fait faire un rallie... jeu de Marine Le Pen. Ça veut dire que vous allez remplacer Marine le Rassemblement Le Pen. National.
Non, chère Anne-Marie Coudray. Marine Le Pen dit que le grand remplacement n'existe pas. Moi, c'est moi qui ai imposé.
On l'a entendu.
Je vous assure. Regardez maintenant, même Valérie Pécresse emploie ces mots. Mais c'est moi qui ai imposé ce terme dans la campagne présidentielle. Avant, Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen, ne voulait pas reconnaître ce mot. Donc, je le dis maintenant, justement, pourquoi ces gens du Rassemblement National et de LR me rejoignent ? Parce qu'ils veulent participer à cette lutte contre le grand remplacement et ils pensent que je suis le seul à pouvoir la défendre, à défendre cette France qui veut rester la France.
Voilà. Et plusieurs fois dans l'interview, il a dit Anne-Marie au lieu d'Anne-Claire, au moins 5 fois. Bon. Mais vous savez, c'est son grand truc de changer les prénoms.
Absolument. On va passer, alors je vais représenter nos débatteurs aujourd'hui. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Hassène Amour, responsable associatif et fondateur du collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir. Et Thomas Ellexhauser, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure. On va passer à vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christine Bouillot, on commence avec vous.
Alors c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est un coup d'étonnement. En lisant un papier de mes confrères ce week-end de la Dépêche du Midi, ils ont fait un portrait d'une caissière d'un grand supermarché de la banlieue toulousaine. L'enseigne a mis en place des caisses à blabla.
Oui. Alors Gilles nous en avait parlé de ça dans un zapping, effectivement.
Absolument. Ouais. Mais ce que je trouve étonnant, c'est qu'on soit obligé de dans le monde dans lequel on est, de faire ça pour pouvoir expliquer aux gens qui sont derrière à la caisse qu'éventuellement, oui, une caissière peut prendre du temps pour discuter avec monsieur et madame tout le monde qui vient faire ses courses au supermarché. Voilà. Je trouve ça toujours très étonnant de devoir justifier que l'on ait le temps de prendre le temps finalement d'écouter les gens, de leur parler, de dire bonjour, au revoir et merci.
Ouais.
Voilà, donc ça illustre quand même un drôle de climat et une drôle d'ambiance dans le monde dans lequel
les gens se parlent de moins en moins. Et effectivement, on l'avait relevé il y a quelques temps, mais vous faites bien de noter cette...
petit coup de grâce en ce jour de Saint-Valentin, pardonnez-moi, mais moi je me suis émerveillée ce matin sur la prestation de nos Français, médaille d'or au JO, Papadakis, Cizeron, voilà, si vous voulez voir un moment de poésie et de grâce sur la glace et que vous aimez ça, je vous conseille ces 5 minutes de patinage de couple.
Bon, on n'a que des coups de cœur ce matin. Vous, c'était un coup de cœur justement, Thomas Ellexhauser, pour la Saint-Valentin.
C'était un coup de cœur Saint-Valentin. Je pense à mes grands-parents qui approchent 65 ans de mariage.
Ouais.
Et je voulais faire un appel aux auditeurs et aux participants de ce plateau de penser à quelqu'un seul aujourd'hui, célibataire ou veuf. C'est ce que moi j'ai fait ce matin en me réveillant. Et de passer un coup de fil difficile parce que ce Covid a beaucoup isolé. On en a parlé déjà sur votre antenne, chère Valérie. Et je trouve qu'en ce jour de Saint-Valentin, c'est bien de penser aux autres. Et la vie reprend. Bon, je souhaite à tous les couples d'être aussi heureux que mes grands-parents. En tout cas, je salue mon épouse également. Mais si on peut avoir cette pensée et se dire de... loin de l'actualité ukrainienne, russe, avoir une pensée positive et penser à toutes les personnes que l'on aime. Voilà.
Oui, moi j'aurais eu un coup de gueule sur la Saint-Valentin que je trouve extrêmement, alors je suis rabat-joie, hein, mais un peu commercial quand même. Enfin, c'est un truc, vous n'avez pas besoin de je pense
un
que vos grands-parents n'ont pas, s'ils ont tenu, ils n'ont pas besoin de se rappeler le 14 février qu'ils s'aiment et qu'ils sont amoureux et d'aller acheter des fleurs. J'ai vu un reportage sur France 2 terrifiant hier sur ces fleurs qui sont fabriquées au Kenya. Alors il y a ce double paradoxe, enfin, qui sont élevés au Kenya, évidemment, ça fait travailler des gens, mais quelle indignité quand même d'avoir du transport de fleurs d'Afrique jusqu'en France qu'on va acheter par milliers. Enfin bon, c'est mon côté peut-être un peu non. Hassan, je vous vois.
Non, mais puis, je suis entièrement d'accord, mais on vit à l'heure malheureusement du numérique et effectivement, beaucoup de gens ont la maladie du clic et vont acheter des choses à l'autre bout de la planète, en plus fabriquées dans des conditions un peu très contestables. Et donc, je suis comme toi, moi, je m'indigne de ces pratiques.
Et alors, peut-être Yves Damécourt, la Saint-Valentin, peut-être on va faire un petit tour de table Saint-Valentin.
Ben moi, cette année, avec mon épouse Sophie, on va fêter nos 30 ans de mariage. Donc, c'est une année un petit peu particulière.
Mais vous avez besoin de la Saint-Valentin ?
C'est vrai qu'on n'a jamais rien fait de particulier à la Saint-Valentin, qui est une fête commerciale importée des États-Unis et dans laquelle on ne se rencontre pas. Vraiment, en fait, la Saint-Valentin, pour nous, c'est tous les jours. Enfin, en tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit tous les jours.
Bravo. Bah voilà, apparemment, bravo. Historiquement, c'était une fête médiévale du Moyen-Âge qui a été créée en Angleterre, qui ensuite, comme beaucoup de choses, ont été récupérées par l'industrie américaine du plaisir et du loisir. Mais apparemment, on doit cette fête des amoureux à des Anglais.
Bon. Yves Damécourt, c'est un coup de cœur, plutôt un coup de com', là, j'ai envie de dire, pour vous.
C'est un coup de com', oui, parce que le mouvement de la ruralité, dont je suis le porte-parole national, organise demain à l'ambassade de l'Auvergne à Paris, dans le 3e arrondissement, l'audition des candidats à l'élection présidentielle, enfin ceux qui ont accepté de nous rencontrer. Et donc viendront à cette journée Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Gaspard Koenig, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle. Le représentant du Parti communiste qui aurait bien aimé être là, malheureusement, ça ne collait pas avec son agenda. Et Rafik Smati aussi avait un problème d'agenda pour être avec nous. Mais tous nous ont... en fait, on a envoyé un questionnaire de 30 questions qui sont pour nous importantes pour le monde rural. Et ils ont tous répondu oui ou non, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin, demain, ce sera le grand oral sur la ruralité. On a un peu oublié la ruralité dans ces premiers mois de campagne, mais je pense que c'est important de remettre la ruralité au cœur du débat.
C'est vrai. On en a assez peu parlé. Enfin, il y a eu Éric Zemmour avec son chèque de 10 000 euros pour les familles rurales. Valérie Pécresse en a un petit peu parlé. Mais demain, vous viendrez nous faire le compte-rendu de ce grand rendez-vous. Voilà. Donc demain, et c'est ouvert à tout le monde ou pas ?
Oh non, parce que c'est une petite salle, d'accord. On a des petits moyens, donc il y aura les présidents départementaux du mouvement de la ruralité, et puis il y aura la presse, les médias qui seront là tout
et
à l'heure.
Et je note que vous avez invité tous les candidats, on parle de Gaspard Koenig, Éric Smati, Rafik Smati, j'ai inversé, j'ai fait un lapsus. Hassan Amou, coup de cœur.
Ouais, mon coup de cœur, moi, c'est le retour de Zidane dans sa cité d'origine, je trouvais ça... intéressant de voir qu'un grand sportif comme lui, qui a marqué aussi l'histoire du sport de notre pays, puisse à un moment donné, dans ses parcours, à chaque fois revenir saluer les habitants de ce quartier.
Mais racontez-nous, parce que je n'ai pas suivi. Ouais.
Donc en fait, il est venu à la Castellane inaugurer l'ouverture d'un centre médical qui avait disparu, sachant que la Castellane, c'est au bas mot, à peu près un peu plus de 2000 habitants sur un périmètre extrêmement restreint. Et donc... il n'y avait plus de centre médical et aujourd'hui donc la ville de Marseille avec la région PACA et le soutien du sportif ont remis les moyens de mettre un médecin et une présence dans la cité et donc il est venu saluer ça et rencontrer les habitants qui lui ont d'ailleurs rappelé de ne pas signer au PSG au passage.
Oui, j'ai vu.
J'avais pas suivi du tout. Moi, ça se passe à Marseille aussi. Un coup de, on peut pas dire coup de gueule, mais en tout cas un homme qui a été poignardé, un père de famille de 40 ans qui était descendu pour demander à des jeunes de ne pas faire de bruit, de quitter la cage d'escalier, et plusieurs jeunes l'ont injurié et l'ont poignardé. Il est mort. Donc ça fait partie de ces choses au quotidien qui sont absolument tragiques, dont on ne parle pas, et pourtant ça arrive. Donc oui, là c'est à Marseille, à Sénamou, hélas.
Je partage ton triste coup de même. Ça pourrait plus être un coup de gueule aussi, parce qu'à un moment donné, je veux dire, la violence a pris une telle ampleur dans la ville que c'est insupportable. Et quand on voit que là ça touche un père de famille qui est simplement allé dans un hall d'immeuble pour demander à des jeunes soit de partir ou soit d'arrêter d'instaurer ce climat là donc à un moment donné, je veux dire, voilà, l'issue a été fatale pour lui. C'est pas normal, quoi.
C'est pas normal que ça perdure. Moi, j'ai des amis qui habitent dans des cités et qui me racontent que on sait qui ils sont. Bien on sûr. Sait qui le bordel pardon qu'ils font, et il ne se passe rien, et ils sont résignés.
Il est certain que quand vous faites fouiller à l'entrée d'une cité, quand vous voyez les poubelles en travers des entrées des quartiers, on a l'impression d'être dans un autre pays, quoi. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la République reconquérisse ses territoires et qu'on y mette véritablement les moyens de sécurité et humains pour leur montrer qu'en fait, c'est aussi un territoire de la République et qu'il faut combattre les trafics et les voyous qui maintenant habitent les halls d'immeubles.
Une réaction, Yves Damécourt ? Christine ?
Non, mais bien sûr, est terrible. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas... À chaque fois qu'on a des mauvaises nouvelles comme ça, forcément, ça crée une émotion terrible et on en parle beaucoup. Et il ne faut pas que ces mauvaises nouvelles viennent obscurcir toutes les bonnes nouvelles qu'il y a à côté, quoi. Donc, il faut trouver un équilibre dans notre communication.
Mais on ne peut pas non plus... je trouve que c'est important de le signaler, de dire ça. Voilà, homme est mort parce qu'il est simplement allé demander à des jeunes de nettoyer la cage d'escalier où ils avaient mis un certain désordre et de partir. C'est quand même invraisemblable.
Un père de famille,
deux enfants. C'est invraisemblable, c'est affreux, c'est terrible. On doit avoir une compassion formée forcément pour cette personne-là. Et puis les gens ont peur. Et voilà. Mais c'est compliqué. Le sujet est très compliqué parce que plus on en parle, plus les gens ont peur.
C'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils le vivent au quotidien. Christine Bouillot.
Ce qui est compliqué, c'est que c'est hall d'immeuble, c'est bas d'immeuble. C'est vrai que c'est un territoire qui appartient. Qui est toujours une zone sensible, je dirais, et de gros moyens sont mis souvent lors des réhabilitations, justement sur cette entrée d'immeuble, c'est-à-dire comment verrouiller, voire même des services de sécurité ou des agents de... C'est plus des gardiens d'immeuble, c'est des agents de sécurité qui sont là aussi pour essayer, et on voit bien aussi la difficulté de ce sujet, c'est que s'installe aussi pour les jeunes générations une forme d'habitude de ces comportements. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction, et c'est aussi ça qu'il faut arriver à stopper de différentes façons, parce qu'il y a toute une frange de jeunes qui ont oublié les simples règles. Et donc, c'est malheureusement des moyens humains, pas forcément que financiers, mais des moyens humains en force policière, en présence policière, en éducateur, etc. Et c'est compliqué aussi de faire comprendre. C'est malheureux de se dire qu'il est difficile aujourd'hui de descendre de sa cage dans une cage en bas d'un immeuble pour demander aux gens de se taire à une certaine heure et de pouvoir respecter éventuellement une certaine tranquillité. Ouais. Donc je comprends que l'exaspération, mais je rejoins ce que disait Yves, c'est un sujet qui est tellement complexe, mais on a l'impression d'un jour sans fin à chaque fois qu'on en parle.
Quand la criminalité, les trafics polluent à ce point et déstabilisent des quartiers, des villes entières, je pense qu'il faut peut-être même imaginer à se doter d'une législation particulière pour vraiment abattre ces cartels, ces gangs. Également l'origine de la fabrication de ces drogues qui alimentent ces trafics-là. Et je pense même, moi qui suis pourtant un défenseur des libertés, je pense qu'il faudrait réfléchir à donner des moyens supplémentaires et complémentaires de forces très actives, très puissantes, pour mener les enquêtes et faire tomber ces organisations qui polluent complètement la vie de nos habitants dans ces quartiers, dans ces villes. Et Marseille, qui est c'est une très belle ville que j'aime énormément, où est originaire ma famille, ne doit pas être seulement prise pour exemple là-dessus. Il y a d'autres villes et d'autres quartiers de France qui sont dans la même situation, qui sont aujourd'hui le moyen qu'utilise Zemmour pour diffuser sa propagande. Mais il faudrait qu'on puisse avoir des moyens exceptionnels pour mettre à bas cette situation.
Mais qui ont été un peu oubliés quand même par les politiques, hein, ces quartiers. Sénamou, vous en savez quelque chose. Enfin, il y a eu des aides, mais tout de même, on
a abandonné,
on s'en sert,
des quartiers
on les a
entiers,
abandonnés
sûr,
complètement. On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter le meeting de Valérie Pécresse, meeting raté. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Alors, Valérie Pécresse était en meeting. Alors, il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting, mais c'est vrai que celui de Valérie Pécresse a particulièrement fait réagir. Elle était au Zénith de Paris devant 7000 personnes et elle a été extrêmement critiquée. Les ténors républicains ont réagi sous couvert d'anonymat. C'était un naufrage. On aurait dit le site joué par une élève de 6e. Elle avait l'air de ne pas savoir utiliser les prompteurs, ne savait pas jouer avec le public. On ne s'est rendu compte qu'elle n'avait jamais fait ça. Bon, tout ça, c'est sur la forme, on va évidemment en parler, mais beaucoup plus grave, c'est aussi sur le fond, où elle lui a reproché, je ne sais pas si vous avez écouté Arlette Chabot, des punchlines vides de sens. Alors, vous l'avez regardé, qui veut commencer, peut-être Christine Bouillot ?
Alors, moi, j'ai regardé des extraits, je vais être très honnête avec vous. La campagne présidentielle, parfois aussi, on la regarde par petits morceaux, et je pense que beaucoup de Français font ça. Je ne pense pas que le dimanche après-midi, tout le monde soit scotché devant le meeting de l'un, de l'autre, ou de l'une et de l'autre. Mais en fait, on regarde les résumés, et en tous les cas, les extraits. On va chercher un peu plus loin. Moi, la petite musique que j'entends autour de la prestation, de l'intonation, de la voix de Valérie Pécresse, etc., je suis pas à l'aise avec ça, parce que je trouve que il y a c'est toujours un peu, j'ai l'impression de revenir à l'époque où Ségolène Royal était en campagne, et on critiquait son intonation, sa tenue, ce côté un peu c'est une femme, donc elle ne sait pas se présenter sur scène. Ça me gêne un peu, à tort ou à raison. Je ne sais pas si ça aura un impact fort ou pas dans les sondages, mais je trouve que c'est un peu vite lui tomber dessus, dans la mesure. En revanche, sur le texte, en tous les cas sur le discours, qui lui est préparé par une équipe de campagne, qui lui est préparé et analysé, relu et corrigé, c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas forcément elle-même à l'aise, c'est-à-dire de devoir aller chercher et les électeurs d'Éric Zemmour et Marine Le Pen et ceux d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que c'est un grand écart qui est sans doute difficile à expliquer et à entonner sur un meeting politique. Après, que les ténors LR se défaussent en disant qu'elle n'a pas été bonne, etc., sous couvert d'anonymat, je ne trouve pas ça très courageux non plus. En tous les cas, ce n'est pas comme ça qu'on soutient son camp et sa candidate. C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant de regarder, et je ne suis pas sûre que le calcul soit bon non plus, de faire ça.
Ouais, mais moi, le côté c'est je suis une femme et on m'en veut, ce qu'elle a dit ce matin chez nos confrères d'RTL, je pense
qu'elle
n'a pas dit ça.
Elle
a eu des enfin, elle l'a sous-entendu. Mais Emmanuel Macron a été moqué aussi quand sa
voix... Mais Éric Zemmour a été moqué à sa première intervention.
C'était raillé. Donc d'opposer l'argument « je suis une femme et on ne doit pas me critiquer parce que je suis une femme », c'est compliqué. Enfin, c'est pas très fair-play non plus, je trouve. Mais est-ce que c'est parce qu'elle était une femme qu'elle a été critiquée ?
Est-ce que vous avez entendu des critiques aussi véhémentes sur une prestation ratée de la part d'un homme ?
Mais est-ce que vous avez vu une prestation aussi ratée en meeting ? Franchement.
Ah oui. Ah oui, oui, j'en ai vu, oui, des prestations ratées en meeting. Pardonnez-moi, mais la toute première d'Éric Zemmour n'était pas quand même grandiloquente.
Il n'était pas candidat à l'époque, il intervenait à la tribune pour Marine Le Pen, je crois. Mais le meeting...
Les premières de Marine Le Pen, enfin, il y a eu plein de candidats qui se sont, au fur et à mesure, améliorés. Voilà, bon, après, qu'elle ne soit pas à l'aise en meeting, est-ce qu'on doit lui tomber dessus comme ça ? Je ne sais pas.
Je sais pas.
Ou alors, fallait pas la choisir.
Ça devait
faire un des critères.
Ou peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire de meeting. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un passage
peut-être
obligé ? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui ?
Non.
Alors, Thomas Alexhauser.
Moi, j'étais hier à ce meeting. J'en retiens certains éléments. Déjà, quoi qu'on ait pu en dire, une famille politique extrêmement soudée derrière elle, puisque un grand nombre de personnalités étaient là hier pour la soutenir, les présidents de groupe à l'Assemblée, au Sénat, des Républicains centristes, d'anciens ministres François Baroin, Jean-François Copé, Rachida Dati étaient présentes, le président du Sénat. C'est quand même faire la démonstration qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse a une équipe derrière elle. Ce premier rang était très conséquent, et une équipe de France, comme elle le dit. Aujourd'hui, les chances de gouverner ou de gagner de Zemmour et Le Pen sont quand même très faibles, et on se demande encore avec qui ils pourraient former un gouvernement. Moi, je ne vois personne chez eux capable de former un gouvernement crédible, sérieux au regard des attentes des Français et de la communauté internationale. Ensuite, concernant Valérie Pécresse, moi j'y vois une honnête femme qui peut-être a trop voulu rentrer dans un moule qui n'est pas le sien, d'un tribun capable de retourner une salle, mais bon, c'était une salle qui était déjà acquise. L'objectif de ce meeting, c'était de lancer un cap de rassemblement et d'afficher les unions de la famille qui ont été faites au mois de janvier. Et au final, je finis par penser que c'est pas là où on l'attend et qu'elle peut proposer autre chose, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un président aujourd'hui capable de retourner des salles et de ne pas derrière tenir ses promesses. C'est une femme sérieuse, compétente, qui a été élue par deux fois présidente d'une région qui n'était absolument pas acquise à son électorat et qu'elle a gagné deux fois brillamment avec un très beau bilan. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, de se dire qu'on a peut-être changé d'époque et que ce qu'elle fait de ne pas, et ce qu'elle a dit ce matin d'ailleurs chez vos confrères de RTL, en disant si vous cherchez un tribun, c'est pas moi, si vous cherchez quelqu'un qui peut faire le job, je suis là pour ça. Oui. Mais je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cet exercice d'hier.
Vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne et des meilleurs. Moi, je suis une faiseuse.
Mais voilà, moi, je retiens cette réaction.
Peut-être aurait-elle dû s'abstenir de faire un discours à Senamou.
Non, mais effectivement, moi, j'ai trouvé ce meeting-là, du point de vue, en tout cas, de manque d'art oratoire, elle n'a pas été bonne, on n'a pas très bien compris toutes ces là où elle voulait en venir quand elle prenait la parole. Enfin bref, en tout cas, il y a un problème d'incarnation, effectivement, de la candidate. C'est-à-dire galvaniser les foules, dynamiser une campagne.
Oui, c'est parce qu'on attend d'un candidat, d'un président de la République.
De réussir son premier meeting, c'est quand même important. Et c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un passage obligatoire pour les candidats qui, à un moment donné aussi, arrivent devant une salle comble à développer un programme, utiliser...
Mais est-ce qu'il ne faut pas en sortir de ce schéma-là, de se dire qu'on est dans le show, le spectacle? Jean-Luc Mélenchon, c'est très beau ce qu'il fait, mais à nouveau, une grande partie de son programme ne sera jamais applicable dans ce pays.
Une grosse partie de
ça pour convenir à un électorat. On n'attend pas du show, on attend des solutions et du sérieux.
On n'attend pas du politique qui soit un fonctionnaire. On attend aussi, et d'ailleurs, on a des parlements, et le parlement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On parle, quoi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut convaincre par les mots, il faut avoir une intonation, il faut savoir parler à son public, il faut savoir dynamiser ses équipes sur le terrain, leur donner envie d'aller faire campagne, d'aller taper aux portes, de défendre un programme. Et quand on a du mal à le faire, il faut reconnaître qu'on a du mal à le faire. Alors, peut-être qu'elle était impréparée.
Christine Bouillon a quand même
remporté une primaire. Donc
Le format n'est pas le même.
Ah bah, il y a quand même eu des rendez-vous, des débats. Devant des salles plus petites, certes.
Ça n'a plus rien à voir quand on se retrouve dans une salle comble à devoir convaincre une masse de gens qui sont venus vous écouter pour vos idées, pour la dynamique de campagne, pour l'entrée en campagne face à des candidats qui vont devoir...
C'est pas ça qu'on attend d'une présidente de la République.
L'éloquence, ça fait quand même partie aujourd'hui...
En 2022, est-ce que la campagne se fera uniquement dans les meetings? Je ne suis pas certaine.
Alors Yves Damécourt, vous avez ressenti comment ce meeting?
Je pense que Valérie Pécresse, que je connais un peu, est pas du tout la même quand elle est en privé avec 5 ou 6 personnes ou sur un plateau de télé face à des journalistes à répondre à des questions que face à 7000 personnes au Zénith. Hein. C'est un exercice qui est compliqué. Hein. Valérie Pécresse, elle, en analyse transactionnelle, c'est un profil qu'on appelle le travailloman. Donc, dans cette famille, il y a Lionel Jospin, il y a Édouard Balladur, qui n'étaient pas non plus des grands bretteurs, des grands... Il y a une partie d'apprentissage, donc forcément il y aura une partie d'apprentissage dans la campagne et elle va s'améliorer avec le temps. Je pense d'ailleurs, compte tenu de son profil d'analyste transactionnel, qu'elle a débriefé le soir même et elle a regardé son propre meeting pour voir un petit peu là où ça clochait. C'est pas simple. Ce qui m'a moi impressionné quand même, c'est que au sortir de ce meeting, quand on interroge les militants. Habituellement, il y a une espèce de... Les militants sont galvanisés, ils sont tous derrière le candidat après son discours et ça emmène tout le monde. Alors là, je ne sais pas si c'est un effet des différentes chaînes, etc., mais il y avait quand même des militants qui disaient bah non, finalement, je suis venu là. Et il y avait des militants qu'on retrouve dans les sondages qui ont été publiés ces jours-ci, qui, en fait, aujourd'hui, n'ont pas fait leur choix. Et donc, ils venaient à ce meeting pour dire bah, est-ce que je vais choisir Valérie Pécresse ou est-ce que je vais choisir un autre candidat, puisqu'aujourd'hui, les militants du Parti Les Républicains peuvent se positionner sur trois candidatures, en fait. Emmanuel Macron, Éric Zemmour ou Valérie Pécresse. Et donc, tout ce monde-là est bien partagé. Voilà.
Effectivement, ce sont des moments privilégiés en plus avec ces militants, quand vous vous exprimez à la tribune comme ça, pour essayer de galvaniser, de motiver les troupes, etc. Et c'est un peu aussi un cadeau que vous offrez à vos militants en leur disant, voilà, on a des éléments de langage, on développe un programme, et vous pourrez le réutiliser sur les marchés, au porte-à-porte, en ayant convaincre les gens, etc. Donc si vous ne donnez pas à manger d'une certaine manière à vos militants, ben, ils en sortent déçus. C'est un peu ce qui s'est passé avec Valérie Pécresse. C'est que je pense que ces militants sont restés sur leur faim et qu'elle n'a pas su, à l'image quand vous voyez qu'il y a d'autres meetings qui sont très agressifs, où les gens jouent justement de ces heures où vous êtes en direct à la télé en plus, je pense que ça a un impact qui est quand même relativement important.
Mais
aujourd'hui,
je voudrais ajouter quand même que lors de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron, à mon avis, avait les mêmes défauts d'expression en tribune que Valérie Pécresse, et ça ne l'a pas empêché d'être élu. Donc je suis d'accord avec Christine pour dire que la campagne, elle va se jouer partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les sorties des candidats, peu partout et pas simplement dans les meetings.
On va y revenir dans un instant. La question, c'est est-ce qu'elle aurait dû faire ce meeting ? Enfin, est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'un candidat peut se passer de ce type de meeting ? À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, on parlait du meeting de Valérie Pécresse. Alors, c'est vrai que la petite musique, elle est sur un meeting raté. On voit qu'en coulisses, certains se sentent pas très très à l'aise avec elle. Vous disiez hors antenne, Thomas Elexhauser, l'élégance de Xavier Bertrand qui est là et qui...
Oui, je pense qu'elle a réussi à faire l'unité. Elle a réussi à rassembler largement la famille de la droite, du centre-droit avec le nouveau centre et l'UDI. Hier, tous les mousquetaires, comme on les appelle, étaient présents et sont tous intervenus et font campagne pour elle. Donc un des messages malgré tout, c'est aussi ce message qu'il y a une véritable équipe, elle a appelé ça son équipe de France, et qu'aujourd'hui, moi je ne crois pas vraiment que ni Zemmour ni Le Pen aient envie de gagner ou puissent gagner, et avec qui gouvernerait-il Et alors qu'elle a une véritable structure politique, un maillage aussi qui pourra compter le moment venu de tous ces élus locaux dans tous les départements de France qui est très importante, et que ça peut faire la différence aussi avec un Macron qui n'a pas un parti structuré. Donc je pense que c'est un des messages aussi d'hier.
Oui. Alors écoutez ce que disait Aurore Berger ce matin, qui était invitée du Grand Matin Sud Radio.
Par contre, parler de grand remplacement, c'est reprendre à son compte des mots qui sont ceux de Renaud Camus, qui sont ceux de gens qui sont des théoriciens de l'extrême droite. Et donc, quand on prétend être la droite républicaine, la difficulté de Valérie Pécresse, au-delà de la question du meeting, parce que je ne suis pas là pour distribuer les mauvais points ou les très mauvais points sur son meeting, c'est que à vouloir être et Emmanuel Macron et Éric Zemmour, ben en fait, elle parle à personne. Parce que les électeurs de droite, ils choisiront, à mon avis, les 10 et 24 avril, un autre bulletin de vote que celui de Valérie Pécresse. Et je crois que ceux qui croient à une droite libérale, à une droite européenne, eh bien ceux-là, ils voteront pour Emmanuel Macron.
Alors, ce terme de grand remplacement a beaucoup fait parler aussi.
Elle n'a pas fait ce que certains commentateurs ou politiciens disent ce matin. Elle n'a pas dit, elle n'a pas théorisé les thèses folles de M. Zemmour. Au contraire, elle a dit qu'elle ne voulait pas accepter de la fatalité d'avoir d'un côté le grand remplacement prôné, donc la théorie du grand remplacement prôné par Zemmour. Et donc, moi, je l'ai interprété comme refusant de pouvoir accepter cette théorie comme étant une théorie du débat public et une théorie pour l'avenir de la France. Et de l'autre côté, le déclassement qu'elle a regretté depuis la présidence Macron et avant ça la présidence Hollande. Donc pour moi, elle n'a pas du tout fait sienne, bien au contraire, cette expression. Au contraire, elle a dit « je pense qu'il y a autre chose que ces deux visions et ces deux théories pour mon pays ». Et donc c'est ce qu'elle a appelé la Nouvelle France, c'est ce qu'elle a détaillé dans son discours.
Alors oui, elle a dit ce matin que tout le monde lui a fait dire le contraire de ce qu'elle affirmait dans son discours, sauf que c'est Éric Zemmour qui a mis ce thème au centre de la campagne. Donc Hassan Amou, c'est lui quand même qui... on va en parler d'Éric Zemmour avec les ralliements. Est-ce qu'il risque pas et c'est la question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que Valérie Pécresse a pas ouvert la boîte à fuite où certains vont partir vers Emmanuel Macron et d'autres vers Éric Zemmour?
Moi, je pense qu'on parlait des origines tout à l'heure. On peut parler des origines politiques. Valérie Pécresse a trahi son engagement premier auprès de Jacques Chirac, qui était de dire que c'était plutôt une droite modérée. La vérité, c'est que depuis la primaire, elle s'est un peu radicalisée pour plaire à Éric Ciotti et à un certain nombre de ses compagnons de route auxquels elle souhaite faire plaisir en embrayant sur des thèmes qui sont des thèmes de prédilection de M. Zemmour. Et donc, effectivement, elle donne d'une certaine manière de la force, ou en tout cas au discours de Zemmour, en faisant ce qu'elle fait. Et donc elle a du mal, moi je trouve, effectivement, dans ses arguments, à trouver sa ligne. Et effectivement, on ne sait pas trop quel est son véritable, aujourd'hui, ce courant de pensée.
Non, mais ça c'est alors, de la caricature, excusez-moi.
Alors, je voudrais que Christine Bouillot et Yves Damécourt réagissent à cette phrase. Christine ?
Elle est troublante, certainement, même, je pense, au sein, pour avoir discuté avec des militants LR qui sont dans la base, hein, c'est-à-dire qui vont tracter sur les marchés. Ils sont mal à l'aise avec ça, hein, ils sont mal à l'aise avec ce grand écart, et ils souhaitent effectivement que Valérie Pécresse n'aille pas trop flirter avec certaines lignes, parce que c'est pas ce que eux souhaitent, effectivement, et c'est pour ça qu'ils se sont engagés derrière elle. C'est justement pour ce qu'ils appellent droite dans la lignée des républicains, droite républicaine, droite sociale presque, un peu dans la lignée de Jacques Chirac, quoi, voilà. Donc ils sont, je pense qu'il faudrait faire attention sur cette espèce de fil du rasoir sur lequel flirte, en tous les cas, essaye de naviguer une Valérie Pécresse qui, je le rappelle, est talonné par Éric Zemmour et donc doit aller chercher des points à droite, très à droite et à droite. Donc, elle a un trou de souris dans lequel elle doit passer par rapport à sa ligne politique. Après, le texte, je le dis, ce qui a été dit hier dans la campagne, dans son meeting, c'est un texte qui est lu et relu. Hein, donc,
ouais,
ça
ouais,
veut
ouais,
bien
absolument.
Dire ce que ça veut dire.
Absolument,
hein,
c'était, il y a un prompteur et le texte est lu.
Et lu et préparé avec une équipe de campagne. Donc, ce sont des... Quand elle dit, on m'a fait dire tout le contraire de ce que j'ai voulu dire, c'est quand même quelque chose de qui c'est un moment politique fort, en tous les cas, dans sa campagne.
Un auditeur me dit qu'il faudrait que les journalistes fassent leur travail et relisent la phrase dans son ensemble, etc. Le truc, c'est d'employer ce mot de grand remplacement, c'est l'accréditer, même si elle dit l'inverse. Le fait de l'utiliser, ça veut dire, encore une fois, qu'Éric Zemmour a mis cette phrase et cette notion de grand remplacement dans le débat politique. Peut-être Yves Damécourt, qu'on n'a pas entendu.
Yves, oui, je pense qu'en fait, la phrase qu'a prononcée Valérie Pécresse peut avoir deux significations. La première, c'est, et à l'avoir écoutée ce matin sur RTL, c'est apparemment ce qu'elle voulait dire, c'est « je refuse la théorie du grand déclassement et je refuse la théorie du grand remplacement ». Mais on a pu entendre aussi « je refuse le grand déclassement et le grand remplacement ». Et donc, voilà, c'est ambigu. Et donc, c'est normal que les gens soient perdus parce qu'il y a effectivement, comme le disait Christine, chez les Républicains, beaucoup de gens qui n'ont pas passé le pas d'aller vers Éric Zemmour parce qu'ils refusent justement cette notion de grand remplacement et cette crainte du grand remplacement. Voilà, c'est pas simple. Moi, j'ai habité 5 ans aux Antilles et Aimé Césaire, qui n'est pas un homme de droite, hein, qui était plutôt un homme de gauche, lui, il ne parlait pas de grand remplacement aux Antilles, il parlait de génocide par substitution. Voilà, c'est exactement la même chose, le même phénomène. Et à l'époque, c'était un homme de gauche et c'était un principe qui était diffusé par les gens de gauche.
Alors, je voudrais qu'on parle d'Éric Zemmour qui engrange des nouveaux ralliements. Enfin, c'est vous, Hassan Amou, qui vouliez aussi qu'on revienne sur ce sujet. On a appris ce week-end le ralliement de Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National, qui donc rejoint Éric Zemmour. Mes idées ne sont plus portées par Marine Le Pen et elles sont portées par Éric Zemmour. Je vais le soutenir, Marine Le Pen. Manque de combativité, elle n'a plus la niaque, elle n'a plus envie, elle est en permanence en train de composer, de reculer avant d'être élue. Qui sera le prochain? On voit qu'il y a quand même un certain nombre de ralliements. Celui-ci vous étonne ou pas, vous qui le connaissez
pas
bien,
du tout.
Puisqu'il a gagné face à vous à Marseille.
Mais il faut connaître le personnage de qui est Ravier. Ravier, c'est un militant historique du Front National, donc du FN, qui est après devenu RN, et Marine Le Pen n'a jamais été en réalité ni sa candidate, ni la présidente de son mouvement, tout du moins de celui dont il rêve. Donc il a toujours été canal historique du RN. Et donc, son choix aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de M. Ravier, ne surprend en réalité personne. Parce que cette extrême droite qu'elle essaie, ou qu'elle a essayé sous Philippot et aujourd'hui encore Marine Le Pen de rendre fréquentable, n'est pas la stratégie qu'a épousée Stéphane Ravier. Donc quand j'écoutais les observateurs tout le week-end sur les plateaux télé, c'était assez amusant parce que, en réalité, pour nous autres qui sommes Marseillais, c'est un non-événement. Zemmour, en réalité, il reprend les recettes de Le Pen, père de Jean-Marie, et donc c'est ce qui
donc
fait qu'aujourd'hui
qu'il les rejoint.
La frange, exactement, c'est pour ça qu'il intéresse une frange très importante en réalité de radicaliser et d'extrême droite plus que Marine Le Pen. Pour lequel, déjà, Marine Le Pen ne parlait plus. Et c'est ce qui s'est passé avec Ravier. Donc Ravier, il représente, à mon avis, une grosse partie des militants du RN qui ne se reconnaissaient de toute façon pas dans le personnage de Marine Le Pen. Mmh.
Comment vous le comprenez, Thomas Alexander, parce qu'on a vu, on a évoqué Jérôme Rivière, Gilbert Collard, Maxette Pirc-Bacas, il y en aura certainement d'autres.
Ce sont le fait de dire que la droite est sur une ligne de crête et que la digue peut sauter. Moi, je suis totalement contre ces idées-là. Ensuite, concernant des ralliements à Éric Zemmour, je pense que Éric Zemmour dit aujourd'hui des choses que Marine Le Pen n'osait plus dire. Parce qu'elle était dans une volonté de se normaliser et d'être plus convenable que ne pouvait l'être son père. Et donc, en réalité, M. Zemmour, qui agite des chiffons rouges extrêmement forts, en essayant un petit peu, malgré tout, de diaboliser une partie de la population. Alors, qu'il y ait des personnes en situation irrégulière qu'il faudra régulariser, c'est une chose, mais le discours est beaucoup plus général que ça. On fait des masses. Oui. Et donc, pour moi, il attire à lui cette extrême droite qui est toujours présente en France, antisémite, contre l'étranger, contre la personne d'origine et de culture différente. Et il joue là-dessus. Et donc, les élus très à droite, encore à droite du Front National, font le pas de le rejoindre. Mais pour moi, c'est une guerre entre les deux. C'est pas une guerre qui touche la droite républicaine, c'est une guerre entre ces deux mouvements d'extrême droite, l'un qui porte vraiment son nom et l'autre qui a voulu cacher un peu son nom d'origine.
Christine Bouillot ?
Je note aussi la mise en scène de ce ralliement. Hein. Vidéo à la pluie, comme une rockstar arrivant dans les locaux, embrassade dans les rues de Paris entre les candidats et son rallié de Marseille. Donc il y a véritablement aussi un timing qui est... on feuilletonne aussi sur ce genre de ralliement. Et ça fait partie du jeu. C'est sûr que je pense que pour Marine Le Pen, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle même de voir certains partir. Après, moi, je m'interroge toujours sur ce que ça procure chez les électeurs, c'est-à-dire pas les fans, pas les plus avertis, les plus proches, les militants, etc., mais sur cet électorat qui est censé être séduit par ce genre de décision à voir. Je pense que, par exemple, il faudrait effectivement s'interroger si ça peut faire basculer quelques dixièmes de voix, mais ça crée forcément une dynamique.
Ça crée une dynamique, on le voit dans les sondages, on le voit assez clairement dans les sondages.
Ça, c'est de la mise en scène et c'est du show.
Oui, c'est du show,
Guillaume
absolument.
Pelletier, excusez-moi si on peut s'attarder une minute. Guillaume Pelletier, il y a quelques mois, disait vouloir la victoire de Xavier Bertrand à la primaire de la droite. Comment est-ce qu'on
c'est
peut,
pour ça, je m'interroge
il y a quelques mois, dire la victoire? En réalité, quand il a fait le ITL CNews où il a révélé soutenir Zemmour, il n'y avait aucun doute. Trois jours avant, c'était suspense. Va-t-il rallier? Mais bien évidemment qu'il allait rallier. Parce que c'est
aussi
un moyen d'avoir les caméras, les micros. Ces gens-là sont habités par le fait d'être invité sur les plateaux, d'avoir des caméras sorties et pendues à leur bouche pour pouvoir parler. Ces gens-là ne veulent pas gouverner, ils veulent être au devant de la scène. Et ce qu'a fait Guillaume Pelletier de rejoindre Zemmour, c'était uniquement pour faire le buzz. Uniquement pour faire le buzz.
Alors, on ne vous a pas entendu, Yves Damécourt ?
Moi, je pense qu'au sein du Rassemblement National, il y a deux familles. On dit souvent qu'il y a le Rassemblement National du Nord et le Rassemblement National du Sud. Il y a une partie du Rassemblement National qui est plus proche des idées et des convictions de Jean-Marie Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen, et une autre partie qui est plus proche des idées et des convictions de Marine Le Pen, qui elle-même a été largement influencée en son temps par Florian Philippot. Cette séparation au sein du Rassemblement National, aujourd'hui, elle est mise en danger par l'arrivée d'Éric Zemmour, qui attire forcément les gens qui sont plus proches de Marion Maréchal, parce qu'elle l'a dit elle-même, elle avait plus de communauté, de conviction avec Éric Zemmour qu'avec Marine Le Pen. C'est en train de bouger au Rassemblement National, ça bouge au sein des Républicains, parce qu'il y a des gens qui sont tentés par rejoindre Macron, d'autres qui sont tentés par rejoindre Zemmour, ça bouge au centre, puisqu'en fait, le dernier sondage qui est sorti montre que Emmanuel Macron, finalement, a un tiers de centre-gauche, un tiers de centre-droit et puis un tiers de base macroniste. Mmh. Et donc, tout ça est en train de bouger dans tous les sens et on va voir ce que ça donne au final.
Ouais. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats et revenons sur ce convoi de la liberté. Les manifestations autorisées contre les mesures sanitaires ont rassemblé un peu plus de 30 000 personnes, 32 100 personnes, dont 7 500 à Paris. Il y a eu évidemment des interpellations. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que ce mouvement, finalement, qui voulait prendre modèle sur ce qui s'est passé au Canada, a un peu fait pchit? Christine Bouillot, vous les aviez, vous suivis au départ ces convois de la liberté ou pour la liberté. Qu'est-ce que vous en avez pensé ce week-end? Alors, est-ce que l'échec, c'est parce qu'ils ont été bloqués et que le gouvernement, finalement, a réussi en disant qu'il y aurait des verbalisations, des saisies de véhicules, etc., et que ça a un peu refroidi les ardeurs?
Je ne sais pas si on peut parler d'échec retentissant. Le rêve de départ, c'était de coller au projet et au mouvement canadien. Si c'était effectivement d'arriver à faire la même chose, c'est un échec. C'est-à-dire que Paris n'a pas été bloqué, même si effectivement il y a eu un déploiement de forces de sécurité conséquent, des contrôles routiers. Visiblement, la même chose se produit aux frontières et à l'entrée de Bruxelles, même si chacun joue au jeu et à la souris. Après, c'est difficile de répondre à ces questions-là parce que c'est un mouvement tellement disparate, mais aussi avec des gens très engagés qui ont des revendications, on en pense qu'on en veut, mais qui ont des revendications, qui ont une volonté vraiment de se faire entendre, qui savent user des réseaux sociaux aussi, qui savent user de l'image, qui sont aujourd'hui pleinement, on va dire, préparés pratiquement pour ce genre de manifestation. Je pense que c'est pas du 50-50, mais en tous les cas, il s'est passé quelque chose ce week-end, c'est certain. Oui. Et il se passe quelque chose aussi avec des convergences sur la capitale européenne. Alors visiblement, c'est un peu Strasbourg aussi qui est visé parce qu'il y a moins de forces de sécurité, Bruxelles.
Ils ont été accueillis par les forces de l'ordre et les véhicules stationnés dans un parking à l'écart de la ville.
Ouais. Après, ce qu'ils veulent, c'est être vus et entendus. Ouais. Voilà. Alors peut-être que le mouvement au départ, c'était de faire comme à Ottawa, de bloquer, paralyser complètement une capitale. Ça n'a pas été possible déjà par la première raison, c'est qu'il n'y a pas de camions, hein, il n'y a pas de poids lourds. Hein. Ce sont des caravanes, enfin des camping-cars, des véhicules légers, des motards. Ouais. Donc c'est des véhicules individuels. C'est plus difficile, certes, de tous les contrôler, mais c'est plus difficile aussi d'arriver à un blocage comme vous en avez avec un poids lourd que vous mettez en travers d'un rond-point et il s'en suffit d'un seul et ça suffit. Mmh. Donc je pense qu'il y a deux choses. Après, sur les réponses qui ont été apportées, quelles réponses on peut apporter quand on demande la levée du pass vaccinal? Et le pass qui va disparaître au mois de mars, avril, là, visiblement, les choses vont être levées progressivement, comme par miracle avec la présidentielle. Mais toujours est-il que les choses évoluent dans le bon sens sur le plan...
Il y avait aussi des revendications autour du pouvoir d'achat. Il y avait beaucoup de choses dans les...
Il y avait beaucoup de choses, vous le dites, vous avez raison Valérie. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les listes de revendications, notamment le fait aussi, moi, ce qui m'a toujours étonnée de ça aussi, c'est la volonté de ne pas rentrer en dictature. Bon, voilà, moi, je sais pas quelle réponse on peut apporter à ça.
Oui.
Je regrette beaucoup que ces mouvements gilets jaunes et convoi de la liberté aient pris pour cible depuis 2 ans maintenant les Champs-Élysées. Parce que aujourd'hui, il y a des moyens de manifester sans abîmer l'image et sans abîmer aussi l'outil de travail de milliers de Français, parce que les Champs-Élysées, c'est un énorme employeur. Les dames qui travaillent chez Sephora, je ne crois pas qu'elles soient avec des salaires mirobolants et dans des situations extrêmement privilégiées. Et je trouve vraiment regrettable qu'on ait sacralisé ce monument français et cette palette d'attractivité de la capitale pour y faire des revendications. au moment des Gilets jaunes, on aurait pu imaginer qu'ils aillent manifester. Ils étaient assez nombreux au Champ de Mars pour se faire entendre. Et je trouve regrettable qu'on utilise et qu'on abîme davantage encore l'image de Paris, de la capitale, et derrière de milliers d'emplois que cela représente pour notre industrie touristique et notre industrie du loisir.
Oui. Enfin, il y a une colère quand même qui s'exprime. Oui, mais voilà. Donc
je pense qu'elle pourrait s'exprimer autrement.
Oui,
aussi.
Mais si elle ne s'exprime pas de façon aussi spectaculaire, elle n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue.
S'il y avait plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes rassemblées, etc., ça ferait du bruit.
Oui. Hassan Hamou ?
Non, mais je crois que si on doit parler d'échec ou de... Effectivement, je pense que les annonces, notamment du préfet allemand sur la saisie, sur les images qu'on a vues ce week-end sur Twitter, où on a des policiers qui ont un peu, enfin, qui ont cassé des vitres, qui ont essayé d'embarquer des véhicules, etc. De toute façon, ça a dû décourager un certain nombre d'activistes à ne pas venir. En revanche, moi, là où je reste extrêmement perplexe, c'est que je ne sais jamais ce qu'on y met dans ces convois de la liberté. Mmh. C'est un peu comme sur la fin des mouvements des Gilets jaunes. On ne savait plus qui y avait à l'intérieur de ces mouvements. Il y a sans doute des anti-vax, sans doute des gens qui dénoncent le coût de la vie, qui veulent défendre le pouvoir d'achat. Donc voilà, après, effectivement, une manifestation qui ne marque pas les esprits aujourd'hui.
Mais bien sûr, ben, ça n'est pas entendue. Donc il n'y avait pas d'autres.
C'est certain que là, on en a parlé. C'est qu'en tout cas, ils ont réussi aussi, en tout cas, à faire parler d'eux.
Oui. Yves Damécourt.
Oui, moi je pense que dans cette manifestation, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a le sujet de la liberté, et là, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent que le gouvernement lâche du lest, parce que dans la Déclaration des droits de l'homme, la liberté est un principe, et la restriction de la liberté est une exception. Et donc, il ne faudrait pas faire de la restriction de la liberté un principe. Là, on entend même des sénateurs aujourd'hui qui disent qu'ils n'auraient pas dû voter le pass vaccinal. C'est ce que je pense moi aussi. Le pass vaccinal sur une vague Omicron aujourd'hui n'a que peu d'intérêt. Et d'ailleurs, même ceux qui avaient décidé du pass vaccinal estiment qu'aujourd'hui, il faudrait le supprimer. Et donc là-dessus, il faut que le gouvernement avance très vite. Et la revendication d'un certain nombre de gens, notamment hier à Paris, était, à mon avis, justifiée. La liberté, l'égalité, la fraternité, qui est une valeur républicaine, il ne faut pas qu'on oublie non plus, on en a parlé en début d'émission, ce sont des choses importantes. Les caisses blabla, c'est de la fraternité et la façon dont on s'adresse les uns aux autres. Après ça, il y a un autre problème dans cette manifestation, qui est le même problème que la crise des Gilets jaunes, c'est que ces organisations ne sont pas... structurées. Et donc, elles échappent finalement à toute la loi qui avait été mise en œuvre pour autoriser la manifestation. On autorise les manifestations, mais il faut déposer une demande de manifestation auprès de la préfecture de Paris. Il y a des gens qui sont responsables, il y a des services d'ordre et les manifestations se font. Là, on a un nouveau phénomène qui est lié aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui mobilisent des manifestants sans qu'il y ait en fait de structure. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour permettre à ces mouvements de pouvoir manifester, parce que la manifestation est un droit.
Ouais, ouais.
Voilà ce que je pense, les deux soucis de ce qui s'est passé hier. Maintenant, je pense qu'hier, il y a eu des verbalisations de gens parce qu'ils avaient un drapeau bleu-blanc-rouge dans leur sac à dos. Là, il y a un souci, quoi. On ne peut pas commencer à verbaliser les gens parce qu'ils portent un drapeau bleu-blanc-rouge, soit à leur fenêtre, soit dans un sac à dos.
Oui, oui, Hassan.
Non, ça, c'est des images qui ont été aussi d'une violence, de voir des policiers arracher des drapeaux bleu-blanc-rouge à l'heure où, justement, on explique qu'il est important de symboliser la République, d'être aussi...
Oui, ils étaient utilisés dans un autre...
Oui, mais bon, ils étaient brandis, donc après, demander correctement aux gens de ranger leur drapeau...
Je ne suis pas sûr, Hassan, qu'un policier vous voit avec un drapeau et vous saute dessus pour aller votre
drapeau. Oui, mais on a eu quelques images comme ça qui n'étaient pas des images...
Oui, mais attention, il manque le début, il manque la fin, peut-être.
Peut-être aussi.
Bon, voilà. Je veux vous signaler, je regarde, je peux pas voir tous les commentaires, mais j'ai alternativement été traité de zémouriste, de macroniste, de gaucho. Donc, je pense qu'on doit faire notre boulot à peu près, puisque chacun perçoit dans mes propos, en tout cas, des tendances politiques que je vous mets vraiment au défi.
C'était un peu comme Pécresse.
Voilà. Oh, bah, c'est sympa. On ne sait pas.
Non, sorcière aussi.
J'ai eu plein de choses, absolument. Un mot quand même. Pendant, il y a eu une manif aussi pour Adama Traoré où Éric Tegner, qui vient ici régulièrement dans son émission, s'est fait malmener et exclure. Et c'est une manif plutôt à gauche, mais je dis la même chose à droite. C'est pas normal qu'on malmène des journalistes ou des gens qui veulent participer et voir une manifestation. Je ne sais pas si vous avez vu.
J'ai pas vu non cette manifestation, et pour réagir à ce que disait mon collègue sur les images du week-end. Je pense que les forces de l'ordre reçoivent une telle pression pour empêcher justement des scènes et des situations devant des caméras qui sont partout, oui. qu'à un moment donné, l'être humain, même si ce n'est pas excusable, dérape un peu.
Oui. Et mais là, ce n'est pas les policiers, que... hein, là, c'est les manifestants qui ont carrément exclu les journalistes.
Je ne connais pas cette manifestation, donc moi, je revenais aux images du week-end.
Christine.
De toute façon, ce qui est difficile, hein, il faut le reconnaître, maintenant on en parle suffisamment avec les gens du terrain, c'est d'aller couvrir. Et quand les manifestants ne vous acceptent pas ou ne vous disent, enfin, vous n'allez pas selon eux dans le sens de ce qu'ils veulent vous dire, vous êtes malmené. Le métier de reporter terrain, je ne parle pas du reste, hein, mais les petits reporters sur le terrain font vraiment leur boulot comme ils peuvent. Ils essayent d'être justes et on va dire équilibrés dans ce qu'ils font. Je le répète, la violence n'est pas tolérable, et si ça ne plaît pas aux gens, eh bien une zapette qui permet de changer de chaîne si ça ne vous convient pas.
Mais
la violence n'est pas possible.
Mais vous, quand vous allez dans une manif, êtes aussi souvent prise à partie.
D'une manière ou d'une autre, dans tous les camps.
Il y a une colère qui est très présente, et l'autre jour, je distribuais des tracts sans savoir quelle était la couleur du tract que je distribuais, ou sans savoir si j'étais une personnalité politique de premier rang ou un militant. Le refus était catégorique et le refus avait un côté un petit peu violent. Et ça, c'est sûr qu'il y a un climat dans ce pays qui est malheureusement un peu inquiétant et qu'il va falloir résoudre.
On espère que ça va se calmer.
J'ai vu que Bruno Dive, qui est éditorialiste à Sud-Ouest, s'est fait confisquer son téléphone en rentrant dans le Zénith hier après-midi. Bah, ça aussi, c'est scandaleux, quoi.
Ouais,
si on ne laisse pas les journalistes travailler, ça ne va pas.
Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.